au peuple d'Israël, mon nom c'est Je suis. Alors, ça c'est comme la base. Et Jésus vient et puis il commence à dire je suis, puis les gens commencent à réfléchir. On a vu, le premier c'était quelque chose qu'on mange, les enfants. Je suis le pain, je suis le pain de vie. Ensuite, on a vu, je suis la lumière du monde. Je suis, avant qu'Abraham existe, je suis. Ça, c'en était une pas pire. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, ça c'est aujourd'hui. Bientôt, le chemin, la vérité et la vie, et la vraie vigne. Voilà, l'action et la vie. Donc, et ça, on l'a pas lu, Jésus finit par faire le miracle. Et c'est assez dramatique parce qu'on parle d'un mort qui est mort depuis 4 jours. Il y a même quelqu'un qui dit dans l'histoire, et vous pourrez lire à la maison, il sent déjà. C'est presque, c'est comme si les gens, ils veulent presque pas, parce que ouvrir un tombeau, c'est presque lugubre. Mais Jésus fait ce miracle et en fait, selon les données historiques, ce type de miracle concorde quand même avec le souvenir général historique laissé par Jésus. Les documents anciens qu'on a, qu'ils soient chrétiens ou juifs ou romains, donc on parle d'adeptes ou d'opposants ou de gens indifférents, disent tous que ce Jésus était quelqu'un qui faisait des miracles, et puis que sa réputation en Palestine, c'est qu'il était connu comme quelqu'un qui faisait des prodiges. Et alors, l'évangile de Jean nous donne ce détail, qu'à certains moments, Jésus a carrément ramené des morts à la vie. Ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé en tout cas dans ce cas-ci. C'est important pour nous de comprendre que la raison pour laquelle Jésus y a ressuscité Lazare, ce n'était pas simplement pour faire du bien à Lazare, puis ça lui a fait du bien. Le gars, il était malade, en plus il est mort, mais là, Jésus l'a ramené à la vie et j'imagine à la santé. Et il a fait aussi du bien à la famille qui, j'imagine, ça devait être une réjouissance extraordinaire. On parlait juste vendredi allez voir Cheryl pour les détails de cette histoire, une fille qui est décédée dans un accident d'auto et était assise à côté d'une autre fille qui lui ressemblait. Il y a eu une erreur dans l'identification des corps et une des deux filles, finalement, elle a été enterrée. Il y a eu un funérail, mais ce n'était pas elle. Et la famille a donc récupéré leur fille après 6 semaines. Une histoire épouvantable, mais en tout cas pour la famille qui a recouvré leur fille. Et c'est une histoire vraie, là. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Ils sont passés à Good Morning America et tout ça, là. Et c'est un peu comme la famille de Lazare. Mais là où ce que je veux en venir, c'est que oui, Jésus a fait du bien sur le coup, mais en fait, la résurrection de Lazare avait une signification plus profonde encore. Jésus, pourquoi il l'a fait? C'était pour nous enseigner quelque chose de puissant pour nous, enfin nous et tous les êtres humains. Puis cette réalité plus profonde, elle est dans le « je suis ». C'est quand Jésus dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, celui ou celle, hein, qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » On va essayer d'approfondir ça dans les minutes qui sont devant nous. Et on va justement essayer d'éclairer avec 2 autres choses qui sont dites dans l'évangile de Jean. Le narrateur dit ceci au début de l'évangile par rapport à comment cette nouvelle vie éternelle commence dans la vie de quelqu'un. j'en dis à tous ceux qui l'ont accepté, en parlant de Jésus, mais oui, c'est ça, en parlant d'accepter Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, parce que c'est la lumière qui est en Jésus, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non de la nature, ni de la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari qui veut faire un enfant, mais ils sont nés de Dieu. Autrement dit, cette nouvelle vie, c'est une décision de Dieu, et puis elle commence par une genre de naissance. Mais quelque chose que Jésus dit ailleurs dans l'Évangile et qui vient compléter, c'est lorsqu'il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il y a une invitation ici à mourir, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mourir pour naître à la nouvelle vie. Bon, peut-être vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, peut-être que oui, mais en tout cas, tout le monde est d'accord, il y a ici une très bonne nouvelle concernant la vie. Et vous savez, il y a une très bonne nouvelle ici concernant la mort. Les deux vont ensemble. Et moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'étais dans un petit bateau de pêche avec mon beau-frère. On était en train de pêcher à la truite et on jasait. Puis mon frère, mon beau-frère, c'est un agnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « on ne peut pas savoir si Dieu existe ou pas ». Et en plus, c'est un gars assez originel, à sa manière assez antisocial, mais très agréable à discuter avec lui. Et j'ai appris en jasant avec lui que c'était son anniversaire, juste quelques jours avant le voyage de pêche. Et je ne l'avais pas su. Alors, comme de raison, je lui dis cette bonne fête, Jean-Marc, bonne fête. Il dit, ah, ne me souhaite pas bonne fête, il n'y a rien de bon là-dedans. Chaque anniversaire à mon âge, ça me rappelle que j'ai un pied déjà dans la tombe. Et il était vraiment sérieux et moi, ça m'a surpris comme réponse et ça m'avait attristé. Bien que je comprenais l'idée, mais je pense qu'à force d'être croyant, à force de mettre ma confiance en Jésus, il y a quelque chose qui se passe en moi, c'est que plus j'avance en âge, malgré l'usure de mon corps qui m'attriste, oui, mais c'est drôle, je commence à avoir hâte à mourir. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir hâte à découvrir la vie pleine qui va commencer après la mort. Quête de nature par rapport au changement. Qui va en tout cas continuer après la mort. Et je suis une personne inquiète de nature par rapport au changement. Alors, ça me surprend par rapport à moi-même. Bizarrement, je commence à regarder la beauté du monde durant mes vacances, par exemple, et au lieu d'être triste, dire « Bon, il me reste 30 ans, 20 ans pour profiter », mais c'est comme non, la beauté de cette montagne, c'est le reflet d'un royaume que je vais découvrir dans sa totalité après et qui sera encore plus beau. Il y a une bonne nouvelle ici par rapport. Alors, bien sûr, et que Jésus annonce à Marthe et à nous tous. Alors, bien sûr, la mort demeure quelque chose de difficile et de pénible. Et on pense, bien sûr, ici, au départ subi de notre sœur José, qui est décédée le 21 juillet. Sa présence nous manque. Quel choc pour nous et surtout pour notre frère qu'on aime beaucoup, Gaétan, que je sais que ce n'est pas évident pour toi que j'en parle, Gaétan, mais je veux en parler. la souffrance de la mort peut être très dure avant, le deuil peut être très dur. Mais je vous invite à venir aux funérailles samedi prochain, parce que il y aura un élément d'espoir, j'en suis sûr. Il y aura un élément de joie. José nous a quittés, mais son combat est terminé. Elle est maintenant avec Christ. Et on peut dire, on pourra dire avec elle ce jour-là, comme Paul a dit, lorsque lui-même était en prison pour l'Évangile, l'apôtre Paul, il était en prison et il réfléchissait à voix haute. Qu'est-ce qui est mieux, que je meure ou que je vive? Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et pour José, ça, c'est la réalité. José, qui a placé sa foi en Christ, est avec Christ maintenant. José, par ailleurs, vit le fait que, ou en tout cas va nous communiquer ce jour-là, que la mort nous rappelle, c'est un stimulus, elle nous rappelle que nous devons racheter le temps, que nous avons une mission à accomplir sur la terre et qu'il faut mordre dedans complètement. Parce que nos jours sont limités, n'est-ce pas? Et puis bientôt, nous aussi, on va passer par cette porte par laquelle José est passé. Et on va, notre combat sera terminé. Merci, merci Gaëtan d'avoir patienté avec moi là, mais on va être avec toi toute cette semaine et après. Maintenant, parlons de ce Jésus. Parlons de ce Jésus qui a dit, « Je suis, moi, la résurrection et la vie. » Qu'est-ce que Jésus veut qu'on sache sur lui? Alors, c'est vrai que Jésus est Dieu, ça on l'a vu, puisqu'il a dit, « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Et c'est vrai qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts, et Marthe, d'une manière un peu machinale, elle a dit, « Oui, oui, je sais que tu vas le ressusciter au dernier jour. » Elle se rendait compte que c'est Jésus, Dieu le Fils, qui va ressusciter les morts à la fin des temps, physiquement, et c'est vrai. Jésus a fait plus que ça. Il a ressuscité Lazare temporairement durant sa vie terrestre. Je dis temporairement parce que Lazare, pensons-y bien, Lazare, Jésus l'a sorti du tombeau, il est revenu à la vie, mais il est remort, hein, vous me comprenez? Sinon, il serait encore ici. Il a comme été ressuscité temporairement pour nous enseigner quelque chose. Et il est remort, mais ce miracle-là nous enseigne quelque chose de plus grand, comme j'ai dit tantôt. C'est que la résurrection et la vie est dans la personne même de Jésus. Et toute personne qui place sa confiance en Jésus devient connectée à Jésus comme la branche d'une vigne au tronc de la vigne. Jésus, et on va le voir bientôt dans un autre « Je suis », Jésus est comme le tronc où la sève de la vie éternelle coule. Puis si tu places ta foi en lui, tu vas être connecté comme une branche de vigne. Et alors, les raisins, là, les grappes qui symbolisent la vie éternelle, ça va pousser dans toi. Et c'est quelque chose qui n'arrêtera jamais. Maintenant, la foi que Jésus demande, c'est une foi qui, c'est plus que juste avoir confiance dans quelque chose que quelqu'un dit. C'est plus que juste dire, ben moi, je crois dans le téléjournal de Radio-Canada, parce que j'ai confiance que c'est des nouvelles fiables. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment placer l'avenir de ta vie dans Jésus ressuscité. Tu crois qu'il est ressuscité, qu'il est ici, qu'il t'invite à te connecter à lui, et tu peux lui donner ta vie. Et à ce moment-là, Jésus promet, celui qui croit en moi, celle qui croit dans moi, vivra éternellement, sera dès ce moment, ressuscité. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. En 1978, j'étais étudiant qui commençait à l'Université d'Ottawa et j'avais un ami, Jeff, qui était chrétien. Il y avait un groupe chrétien, puis j'ai eu le bonheur de tomber dans ce groupe et j'étais vraiment étonné par ces personnes. Et Jeff, il m'a pris à part, il m'a expliqué qui était Jésus. Et puis à un moment donné, il me dit, « Marc, il faut que tu lâches le contrôle de ta propre vie. Donne ta vie à Jésus, invite-le à entrer en toi puis à devenir le boss. » Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai prié avec Jeff. Je ne savais pas vraiment comment prier, mais j'ai prié avec Jeff ce jour-là. J'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Et je peux dire que dès ce jour, la vie éternelle a commencé à couler en moi comme une sève qui a transformé ma vie. Et le fait que je suis ici aujourd'hui, ben c'est vraiment extraordinaire. Le changement de direction que ma vie a pris, bien que j'ai eu bien des difficultés comme croyant, mais ce n'est pas grave, la nouvelle vie a commencé à couler et elle peut commencer à couler dans ta vie. C'est une réalité et je vous y invite et Jésus vous y invite ce matin. Je disais que Jésus t'invite à une foi qui c'est pas abstrait, c'est pas intellectuel, mais c'est dit, mais regarde, si vraiment en lui, d'une manière concrète, Jeff, il m'a dit, mais regarde, si vraiment tu as reçu Jésus dans ta vie, mais là, viens, on va aller parler de lui aux autres étudiants dans l'agora de l'Université d'Ottawa demain. Puis, j'avais vraiment peur, mais je me suis dit, bien, si j'ai donné ma vie à Jésus, puis que c'est lui le boss, bien, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance avec ma réputation, parce que c'était surtout ça qui me faisait peur à l'époque. Mes amis vont me prendre vraiment pour un fou. Puis, c'est un peu vrai aussi. Mais ça a été une expérience extraordinaire et j'ai survécu. J'ai survécu. Donc, tu es rattaché à Jésus comme une vigne. Si tu crois en moi, dit Jésus, tu seras rattaché à moi comme à un arbre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es transplanté de l'existence mortelle dans laquelle nous sommes tous plongés comme êtres humains dans la vie éternelle. Ce qui fait que, pensons-y une minute, là, notre mort devient comme quelque chose qui est derrière nous. C'est pour ça que ceux qui vont se faire baptiser le 17 septembre, on pense que ça va être le 17 septembre, on va confirmer. Ceux qui vont se faire baptiser, c'est ça qui sont en train de dire. Je reconnais que ma mort est derrière moi, puis que maintenant je suis dans la vie éternelle. Oui, c'est vrai, la mort physique reste devant moi. Est-ce que j'en ai peur? Quand même un peu oui, parce que ça dépend quelle sorte de mort que je vais avoir. Est-ce que je vais partir subitement dans un accident de voiture? Dans un certain sens, ça fait moins peur. Est-ce que ça va être une mort qui va être physiquement douloureuse? Il peut y avoir des peurs comme ça, mais un peu comme je disais par rapport à notre sœur Josée, elle a franchi la porte. Le combat de la foi est terminé. Elle est avec le Seigneur. Elle attend juste maintenant. Elle se repose et attend que le royaume, soit pleinement instauré, où elle va avoir son nouveau corps et elle pourra vivre sa vie éternelle dans cette dernière étape. Elle n'a plus peur maintenant. Elle n'a plus de combat. Et c'est la même chose pour nous. La mort devient ce passage glorieux. Et la peur de la mort, elle est derrière nous quand on reçoit Christ. La mort physique devient cette porte et ce rappel qu'il faut qu'on rachète le temps, comme j'ai dit un peu plus tôt. Pour beaucoup de chrétiens, en plus, la mort physique qui est devant nous, ceux qui passent à travers, c'est un phénomène assez extraordinaire. Beaucoup de chrétiens meurent dans la sérénité, quelque chose qui frappe ceux qui sont autour d'eux. J'ai parlé à mes voisins de la mort de ma belle-mère, la mère de Cheryl. Elle est décédée en août 2000. Et je parlais avec mon voisin, un autre agnostique. Puis je lui parlais de la sérénité de ma belle-mère qui m'avait frappé, moi, qu'elle, juste avant de mourir, elle nous disait, « Je suis prête. Jésus, prends-moi. J'ai hâte d'être dans tes bras. J'ai fini mon combat. » Des choses comme ça. Elle nous encourageait à persévérer dans la foi. Et puis elle est partie. Rosemary, une chrétienne extraordinaire. Cette sérénité-là, qui peut être à différents degrés selon la personne, mais c'est quand même extraordinaire. C'est parce qu'on sait qu'on est déjà dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Vous savez, les chrétiens du Moyen-Orient, ça c'est mon père qui m'a dit ça, parce qu'il vient du Moyen-Orient, et puis il me dit, il y avait une tradition au Moyen-Orient juste pour dire au revoir à des gens que tu ne vas pas voir peut-être, pour dire adieu ou à des moments vraiment importants de la vie, adieu, et puis je te souhaite une belle mort. Pouvez-vous imaginer de dire à quelqu'un, dire comme à mes voisins, « Hey, je te souhaite une belle mort », mais ça serait pris comme une déclaration de guerre. C'est comme, tu veux-tu que je meure? Non, c'est pas ça. Entre chrétiens, ça voulait dire, en tout cas à cette époque, je prie que tu sois habité par cette sérénité-là. Quand Jésus va venir te chercher, et sans gêne, les chrétiens de ces pays-là, apparemment que ça se fait moins aujourd'hui, se souhaitaient une belle mort. Alors, je recommande que vous ne disiez pas ça à vos collègues de travail. Ça ne serait pas une bonne idée. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on essaye-tu entre nous dans l'Oasis? Hey, je te souhaite une belle mort. Pas demain, mais quand ça va venir? Mon dernier point, c'est que Jésus nous invite à mourir avec lui. Que la nouvelle naissance qui met la peur de la mort derrière nous et la connexion avec Dieu qui est éternel devant nous et qui commence dès maintenant. Mais ça commence par mourir avec Jésus. C'est pour ça que lui a dit, « Je suis le grain de blé qui doit mourir pour produire d'autres grains de blé. » Ces autres grains de blé-là, c'est nous. Mais il dit, « Il faut que celui qui veut me suivre vienne et en quelque part, meurt avec moi. » Et j'ai parlé un peu du fait que, avec mon ami Jeff, il m'avait dit, renonce au contrôle de ta propre vie. C'est ça, la mort. Ça commence avec ça, c'est dire, je renonce à être mon propre Dieu. Et puis toi, Jésus, sois mon Dieu. Je veux maintenant vivre dans ton plan. Renoncer à ma propre volonté égocentrique qui demeure là, mais on est sous un nouveau management. On se soumet à la volonté du maître. Les siècles chrétiens, mes amis, les siècles qui nous précèdent regorgent d'exemples de disciples de Jésus qui, quand ils ont compris le message, ils ont enterré leur ancienne manière de vivre, qui ont enterré même des aspirations qui pouvaient être bonnes et louables pour renaître dans une nouvelle vie où c'est Jésus qui les menait dans une nouvelle direction. Et cette Église contient même beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu cela et qui peuvent nous le raconter. On ferait bien de se souvenir de cet exemple et de cette parole du missionnaire chrétien James Elliott, qui, lui, a été appelé comme jeune homme à aller en Amazonie pour amener l'Évangile à une tribu qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. Et son équipe a eu beaucoup de succès, mais lui, il est mort, il a été tué dans les premiers jours de la mission. Mais il avait écrit ceci avant de partir, qu'il abandonne une possession qui allait arriver. Il n'est pas fou celui qui abandonne une possession qu'il ne peut préserver, afin d'en saisir une autre qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui abandonne une possession qu'il ne peut préserver, afin d'en saisir une qu'il ne peut pas perdre. Donne ta vie à Jésus. La mort à soi, oui, il y a une décision de départ. Ceux qui vont se faire baptiser, on prie pour vous, vous allez le redire dans votre baptême. Mais ça se vit à tous les jours, la mort à soi, la mort à soi-même, et dans tous les domaines de la vie. Puis justement, les hommes de l'Église Oasis, on est un petit groupe, on se voit les mercredis matins de 7 à 8 avant d'aller au travail. Et on est en train d'étudier comment la mort à moi-même se vit dans le cadre de la vie de couple. Intéressant, mesdames, non, que les hommes, on se penche là-dessus. Et le livre qu'on est en train de lire a un titre intéressant, « Avant que l'amour ne meure ». Parce que c'est quand même logique que souvent, on a des problèmes dans notre couple parce que c'est ma volonté propre qui passe avant l'épanouissement de l'amour dans le couple. Et qui fait que, tranquillement, hein, je vous parle d'une réalité qui est partout autour de nous et dans nos propres maisons, l'amour d'un couple qui commence si bien peut commencer à mourir. Alors, une des questions qu'on va se poser dans nos discussions, qu'est-ce qui doit mourir dans ma maison? C'est-tu ma volonté propre ou est-ce que ça va être mon amour? Question que les hommes peuvent se poser, les femmes aussi. Je peux commander d'autres livres. Puis encore de la place dans notre groupe. Mais là c'est seulement pour les hommes, ce groupe-là. Mais le livre est pour tout le monde. Mais bon, on va conclure. Et Jésus a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donne ta vie à Jésus ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Il va te donner la vie éternelle. Une source de vie abondante qui va renouveler toute ta vie. Oui, il t'invite à mourir avec lui. Fais le pas ce matin. Ce que tu vas perdre, tu vas le regagner au centuple. Dans l'éternité, mais déjà maintenant. Alors, je nous encourage tous ce matin à repartir d'ici avec cette parole dans le cœur, Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Puis qu'on se le répète avec joie. Parce que grâce à Jésus, on peut mettre notre mort derrière nous. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher et on va prier ensemble. Et si tu aimerais, qui que tu sois, peut-être que ça fait longtemps que tu viens ici, peut-être que c'est ta première fois, si tu aimerais, durant la prière, te lever pour dire à Jésus, « Jésus, ce que je comprends pas tout, mais ce que je comprends, je le veux. » Tu peux te lever et que ça soit ta manière de dire, « Oh Jésus, reçois-moi dans ta famille.